Et cette semaine, Daniel Habert, en compagnie de Blaise van der Linden, bien sûr, compare les négociations entre la guerre au Proche-Orient et les négociations qui ont lieu concernant le conflit russo-ukrainien. Voici donc Daniel Habert qui répond aux questions de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, comme tous les lundis matins, pour nos conversations où on décrypte l'actualité géopolitique mondiale. Alors, Donald Trump avait fait une promesse. En 48 heures, il résoudrait le conflit entre la Russie et l'Ukraine et le conflit au Proche-Orient. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Depuis son élection, il avait promis de faire une urgence prioritaire de résoudre ces deux conflits. Où en sommes-nous? Est-ce un échec pour lui pour l'instant?
Alors c'est vrai qu'on accuse Trump de tous les maux. On l'accuse d'abord de mettre le désordre dans le monde. Le désordre, c'est surtout les paroles et les commentaires qui s'en suivent, parce que le désordre, c'est ce qu'il a trouvé en arrivant, hein. Les conflits, ils sont bien antérieurs. Et le désordre mondial, il est pratiquement depuis 1945, depuis 47, avec la guerre froide et tous les conflits qui se sont succédés. Donc oui, il a fait une promesse et il essaye de la tenir en fait, puisqu'il a quand même obtenu les deux cessez-le-feu avec le Hezbollah, avec le Hamas, avant même d'être intronisé, puisqu'avec le Hamas, c'était la veille de son intronisation, et avec le Hezbollah, c'était l'année précédente. Donc on peut pas lui reprocher de pas faire des efforts. Alors c'est vrai que qui sont pour ce qui est pour Trump, non pas sa priorité, mais ses urgences, qui est de mettre fin au conflit. Il faut comprendre pourquoi c'est urgent. D'abord parce qu'il déteste la violence. Il trouve que c'est en décalage avec le monde moderne, qui est un monde de prospérité, de technologie. Donc toutes ces guerres sont des guerres des siècles passés. Et surtout, ce sont des conflits dans lesquels les États-Unis sont engagés. Et non seulement ils sont engagés, mais ils risquent d'être engagé davantage par des escalades possibles, donc il faut absolument qu'ils y mettent fin. Je rappelle quand même que la priorité pour Trump, c'est de faire face au principal défi qu'est la Chine, et deuxièmement, de mettre l'Amérique en ordre de marche pour renforcer sa puissance qui a été pas mal érodée ces dernières années. Donc on y voit plus clair sur les urgences et sur les priorités. Alors sur l'Ukraine, le dialogue quand même avec Poutine est largement engagé. Et ce qu'on remarque, c'est que Trump, pour pouvoir obtenir que Poutine accepte un cessez-le-feu, lui a beaucoup donné, c'est vrai, sans négocier, lui a tout donné, mais c'est une tactique. C'est je te donne tout, et maintenant tu n'as plus aucun prétexte pour refuser de faire le cessez-le-feu. Et si tu ne mets pas en route le cessez-le-feu, là, ta responsabilité est totalement engagée, alors que moi, je suis prêt à reconnaître toutes les erreurs qui ont été commises, l'extension de l'OTAN, etc. Vous voyez le dialogue qui s'agoche. Donc, je pense que là, les jours qui viennent, probablement, nous montreront que cette tactique de Trump a peut-être été la bonne. Sur le Moyen-Orient, le fait que Trump ait obtenu les deux cessez-le-feu immédiats, c'était une bonne chose, et maintenant, au fond, on prépare la négociation avec le principal défi du monde occidental, qui est l'Iran. Et donc, Trump a désigné l'ennemi du Moyen-Orient, il a pointé du doigt, il a même écrit à Khamenei en disant: d'ici 2 mois, on va se parler, et si on se parle pas, ça va être dur pour vous. Donc c'est une sorte de période de pré-négociation que nous vivons, et ça explique que l'Iran fait monter la pression en ce moment. D'abord en annonçant des lignes rouges. Par exemple, Khamenei a dit: il n'est même pas question qu'on discute de mon programme nucléaire, alors que c'est le cœur du débat. Donc il met la barre assez haut, mais surtout il encourage, c'est clair, toutes ces milices terroristes qui sont ces boucliers, à réactiver ce que j'appelais dans les conversations précédentes la guerre d'usure contre Israël, l'idée étant de ne pas permettre à Israël de retrouver une vie normale, ce qui est l'objectif de l'Iran, faire souffrir Israël, défier les États-Unis, et ça c'est depuis 1979. Donc on voit bien que le Hamas, même presque mort, presque affaibli, enfin très affaibli et évidemment vaincu, continue de tenter de survivre à tout prix. Il est poussé par l'Iran, et il utilise les otages non pas pour se sauver, mais pour rester à Gaza. C'est ça qu'il faut comprendre et qui explique la politique d'Israël, qui est une politique de grande fermeté et aujourd'hui d'opérations militaires reprises. Et parallèlement, le Hezbollah continue à essayer de contourner le cessez-le-feu. Il lance des missiles récemment sur la ville du nord, Metoula. Et quant aux Houthis, dont on pensait qu'ils avaient reçu suffisamment de coups d'Israël et surtout des Américains, continuent à lancer des missiles à un risque très élevé pour eux, parce que le prix à payer par toutes ces milices terroristes va être extrêmement élevé. Ils vont payer 10, 100 fois le prix. Mais ça ne les dérange pas, parce que c'est l'Iran qui les pousse et que ces groupes terroristes font ce que le terroriste fait, c'est-à-dire faire souffrir ses ennemis au risque même de mourir. C'est l'expression même des attaques suicides du terrorisme. Donc ça, c'est du terrorisme à grande échelle. Y compris au suicide. Donc voilà un petit peu la situation telle qu'on peut la décrire.
Alors, y a-t-il une comparaison à faire entre les deux conflits et les deux périodes de négociation qu'on observe?
Alors, les deux objectifs des Américains sont très 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 différents. On ne peut pas les comparer, hein. Pour l'Ukraine et pour l'Europe, l'objectif américain, c'est se dégager de l'Europe. Ça fait longtemps qu'ils essaient de le faire et ils disent aux Européens, à vous de jouer, vous êtes assez puissants pour le faire et c'est en train de se faire. Avec le Moyen-Orient, les Américains doivent rester au Moyen-Orient. C'est très stratégique pour eux d'être présents au Moyen-Orient. On va y revenir. Et donc, on ne peut pas comparer les deux approches. Avec Poutine, en fait, ce qu'il essaye pour se dégager de l'Europe, une tactique et une stratégie. La tactique, c'est je te donne tout, mais je veux le cessez-le-feu. Et la stratégie, c'est je te propose même plus. Là, c'est du bilatéral. Je te propose de te réintégrer dans le fond ce qu'on pourrait appeler le monde chrétien, le monde occidental. Après tout, les Russes sont des chrétiens orthodoxes. Et nous partageons donc ces valeurs chrétiennes. Et tu n'as pas vraiment de raison de t'associer avec la Chine, qui est quand même une toute autre civilisation. Ça, c'est la stratégie. Il est clair que ces deux tentatives, à la fois stratégiques et tactiques, peuvent échouer. Et peuvent échouer. Et donc, la dernière chance pour l'Ukraine, si ça échoue, ce sera l'Europe et aussi l'énervement de Trump qui pourrait dire bon bah puisque c'est comme ça, moi je vais aider l'Europe le temps que l'Europe se construise militairement, je vais les aider pour montrer à Poutine qu'on parle sérieusement. Avec l'Iran, l'objectif c'est de trouver un compromis qui soit meilleur que celui de 2015. Qui était très mauvais. Mais l'alternative, elle a toujours été proposée à l'Iran, c'est la confrontation. Et cette confrontation, elle peut prendre beaucoup de formes, de sanctions augmentées, jusqu'au bombardement des sites nucléaires. Donc, l'attitude de défi de l'Iran fait que Trump a donné son feu vert à Israël pour, avant même la négociation avec l'Iran, Israël continue d'affaiblir toutes ces milices pro-iraniennes et c'est ce qui se passe en ce moment. Et il comprend bien que, au fond, l'Iran doit être à long terme contenu. Et donc, il faut d'une part négocier évidemment avec l'Iran, mais surtout monter une coalition anti-iranienne. Donc, Israël, c'est l'allié irremplaçable par sa technologie, par sa capacité d'information et puis l'engagement de Tzal, qui dit, moi, je sais me battre tout seul, j'ai juste besoin d'armement. La négociation avec les Arabes, et là, elle est plus difficile parce qu'on voit bien que les Saoudiens ont des doutes sur l'engagement américain, quand on les voit, Trump s'est dégagé de l'Afghanistan, même si c'est Biden qui avait fait qui avait fait la clôture. C'était Trump qui avait engagé ça. Et puis, quand on voit les Américains vouloir se dégager de l'OTAN ou de l'article 5 de l'OTAN, ça génère du doute pour les Arabes. Et puis, il faudra aussi que les Américains parlent avec les Turcs, qui sont en train qui ont une position qu'on va appeler trouble.
Alors, pour terminer, Daniel Abbert, on arrive à la fin de nos conversations. En une petite minute, quelles sont les perspectives dans ces prochaines négociations?
Ben, très franchement, c'est des incertitudes, beaucoup d'obstacles et donc beaucoup de soucis pour Israël, qui doit analyser sa sécurité à long terme sur la capacité des Américains à gérer la négociation avec l'Iran. Et donc les incertitudes, c'est l'attitude de l'Iran. Est-ce qu'elle continuera à être défiante? La deuxième, c'est l'attitude de l'Arabie Saoudite. Fera-t-elle confiance aux Américains? Ou va-t-elle essayer de trouver une sorte de forme d'autonomie stratégique en parlant à tout le monde, y compris à la Chine, y compris à l'Iran, y compris à la Russie. Et puis ce jeu de troupes de la Turquie, qui était quand même le grand ami de l'Occident et qui aujourd'hui devient le foyer de l'islamisme militant, celui des frères musulmans, et qui utilise la cause palestinienne. Comme tout le monde d'ailleurs, c'est cette instrumentalisation de la cause palestinienne par tout le monde musulman qui est le principal sujet d'inquiétude pour Israël. Et donc la seule chose que peut faire Israël aujourd'hui, c'est cette fermeté qu'elle montre, je crois qu'elle a raison, et le développement de sa capacité technologique dans le militaire. Et on peut faire confiance en Israël dans les deux cas pour tenir sa place. Et je pense que les Américains auront à cœur de soutenir Israël encore longtemps.
Et on aura évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochaines conversations. Daniel Haber, merci beaucoup, on se retrouve lundi prochain.
Au revoir.